Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Tout le monde tienne sa Bible entre sa main. La main droite. Répète après moi la parole élevée vers le trône de Dieu. Seigneur, je crois qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole. Je crois de tout mon cœur que tout ce qui va se faire sur la terre va se faire par la parole. Je place ma confiance en la parole infaillible de Dieu. Et je déclare, la parole de Dieu ne me décevra pas. Car la parole de Dieu est Dieu. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Il le fera certainement. Il le fera dans ma vie, il le fera dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, il le fera dans ma nation, il le fera dans le monde, car il est Dieu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ouvre ta même Bible dans le livre de Genèse 1. Genèse 1. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Genèse 1. Verset 26. Nous allons lire jusqu'au verset 31. Je compte jusqu'à 3 et on va lire ensemble. Genèse 1, verset 26 à 31, jusqu'à 3. 1, 2, 3. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute terre portant de la semence qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en son souffle de vie, je donne tout un verre pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, lui en soir et lui en matin, ce fut le sixième jour. Le thème de mon message ce matin, c'est la suite dans la destinée prophétique, mais plus spécifique, ta destinée est prophétique. Répète après moi, ma destinée est prophétique.
Ma destinée est prophétique.
Encore, ma destinée est prophétique.
Ma destinée est prophétique.
Je vais prier. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Je demande, Éternel, que ta présence nous donne d'avoir la révélation de ta personne. Merci parce que tu as dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, feront des exploits et agiront avec fermeté. Par ce message, je décrète que la personne la plus ordinaire, la personne même méprisée, la personne rejetée, deviendra un champion par la puissance de la parole au nom de Jésus. J'annonce que par ce message, le malade sera guéri, le pauvre sera restauré. Je décrète dans le nom de Jésus que toute malédiction est ébranlée et que la gloire de Dieu visite chaque personne au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta présence. Éternel, je mets une attente devant ton trône. Que tu me donnes encore ce matin l'habileté d'enseigner ta parole et de l'approcher avec une telle autorité que personne, Éternel, ne puisse rentrer chez elle étant la même personne. Merci pour ta fidélité, Éternel. Que ton nom soit exalté et que ta puissance soit démontrée au milieu de nous en ce jour. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et que chacun dise, amen, trois fois dans la salle. Amen, amen, amen. Hallelujah. Est-ce qu'on peut encore donner des acclamations au Seigneur Jésus? pour sa fidélité. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir. Amen. Par le message de ce matin, nous allons continuer notre série sur la destinée prophétique. La destinée prophétique. Nous avons défini, n'est-ce pas, la destinée comme étant une puissance souveraine, considérée comme réglant d'avance tout ce qui doit être. Donc on parle de destinée parce qu'il y a une puissance souveraine qui règle d'avance tout ce qui doit être. Mais nous ne nous arrêtons pas à la destinée, nous parlons de destinée prophétique. La destinée prophétique, c'est simplement le fait que Dieu est en plan et en but qu'il a arrêté d'avance concernant toutes les personnes qu'il a créées sur terre. Répète après moi, Dieu en plan pour moi. Et Dieu en but pour ma vie. C'est la raison pour laquelle j'ai été créé. Je reprends, répète après moi, Dieu en plan pour moi. Et Dieu en but pour ma vie. C'est la raison pour laquelle j'ai été créé. En quelque sorte, tu n'as pas été créé par hasard. Dieu a eu un plan et un but pour lequel il t'a créé. Maintenant, revenons-en. On va répondre à certaines questions que beaucoup de personnes d'entre nous se posent. La Bible dit, Genèse 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Au moment où Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, où est-ce que l'homme se trouve? L'homme est où? Est-ce que l'homme existe? Non, l'homme n'existe que dans la pensée de Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je vais vous rappeler que le Dieu qui dit, faisons l'homme, est un Dieu omnipotent, avec la capacité de tout faire, en tout temps et en tout lieu. C'est ce Dieu qui dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est un Dieu omniprésent, c'est un Dieu omniscient, un Dieu qui sait tout. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. En ce moment, l'homme n'existe pas. L'homme n'existe que dans la pensée de Dieu. Et plus loin, suivez-moi bien, Dieu dit, faisons. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui pensent et une personne qui parle. Parce que si c'était une personne qui avait pensé, la Bible elle dit, Dieu dit, je fais. Mais la Bible dit, Dieu dit, faisons. Donc, il y a plus d'une personne qui parle. Mais plus d'une personne qui pense, en fait. Dieu dit, faisons. Donc, la pensée émane de plus d'une personne. Et là, au moment de la création de l'homme, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ont tenu un conseil. Le conseil de la création de l'homme. Ils ont résolu ensemble qu'il fallait susciter sur la terre une créature qui puisse venir sur la terre, comme on a vu la semaine passée, dominer sur la puissance des ténèbres et montrer à Satan qui est Dieu. Parce que Dieu n'a pas jugé utile de régler d'égal à égal le problème qu'il a eu avec Lucifer à la montagne de Sion. L'homme est suscité par Dieu dans le but d'enseigner à Satan la soumission. Et Dieu dit faisons le Père, le Fils et le Saint-Esprit, l'homme à notre image selon notre ressemblance. Je vais vous faire remarquer que quand Dieu dit faisons, le porte-parole de la résolution de Dieu fait connaître la pensée de Dieu qui ne s'est pas fait en un instant. Ça a coûté à Dieu de trouver la solution en ce qui te concerne. Comment est-ce que tu allais être créé? Ce n'est pas en une seconde que Dieu a pensé te manifester. Ce n'est pas en une fraction de seconde que Dieu a imaginé à quoi tu allais ressembler. Ça a demandé à Dieu de puiser dans le profond de son intelligence, de sa sagesse, de son imagination, de sa pensée à ton égard. Est-ce que vous me comprenez? Et quand on le comprend, on ne vit pas sur la terre comme un accident qui va se produire. Parce qu'on n'est pas au hasard. On est la résultante d'une résolution qui a été prise par un conseil qui a siégé. Et je vous annonce que le premier conseil qui a siégé n'est pas le conseil des ministres ou le conseil du gouvernement. Le premier conseil qui a siégé dans l'univers, c'est le conseil de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Parce que Dieu existe et Dieu en gouvernement. Toutes les vérités que nous voyons dans le monde physique ne sont que la parallèle des vérités qui existent dans le monde spirituel. Dieu dit faisons. En ce moment-là, l'homme n'existe que dans la pensée de Dieu. Et la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Ça, c'est intéressant. Il le créa à l'image de Dieu. Mais revenons. Je vais vous montrer quelque chose qui est assez intriguant. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Mais normalement, la Bible aurait pu dire, Dieu créa les hommes à son image. Il les créa à l'image de Dieu puisqu'il a créé l'homme et femme. Mais en fait, quand on va dans le grec, ce mot homme ici veut simplement dire l'être humain, qui est la conjugaison du mâle et de la femelle qui est l'homme et la femme. C'est ce qui fait l'homme. Et Dieu les bénit tous les deux. Et Dieu fait l'homme, créa l'homme à son image. Quand Dieu crée l'homme à son image, l'homme ressemble à quoi? Dieu crée l'homme à son image. L'homme ressemble à quoi? L'homme a été créé à l'image de quoi? Maintenant, est-ce que Dieu est blanc ou il est noir? Dieu est métisse ou Dieu est jaune? Dieu est chinois ou il est ivoirien? Dieu a quelle apparence? Est-ce que Dieu est physique? Oh, réponds-moi s'il te plaît. Est-ce que Dieu est physique? Alors, l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc, l'homme est quoi? L'homme est quoi? L'homme qui a été créé est quoi? Est un esprit. Ça, c'est fantastique. Et l'homme a été créé où? Au ciel. Est-ce que vous me comprenez? Dieu crée l'homme à son image et Dieu le bénit. Maintenant, suivez-moi bien. Suivez-moi très bien. Dieu crée l'homme au ciel. Mais au ciel, là où l'homme est créé, il n'y a pas de problème. Parce que Lucifer a été chassé du ciel et s'est retrouvé sur la terre. Et l'homme va être envoyé sur la terre comme missionnaire de Dieu pour accomplir les buts de Dieu sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? Donc l'homme est créé au ciel. Mais au moment de la manifestation de l'homme sur la terre, la Bible dit dans Genèse 2, verset 7, puis Dieu dit, Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il forma l'homme de la poussière du sol. Et Dieu souffla en l'homme le souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Donc, si je comprends bien ce que la Bible dit, il existe une différence entre la création et la manifestation ou la création et la naissance. Donc, je ne suis pas créé le jour où je nais. Je ne suis pas créé le jour où les spermatozoïdes de mon père rencontrent les ovules de ma mère. Non, je suis créé avant. Et je vais plus loin, suivez-moi bien. La Bible dit au verset 31 que Dieu vit tout ce qu'il avait fait, tout. Il a vu quoi? Il a vu tout. Il n'a pas vu quelques-uns. Il a vu tout ce qu'il avait fait. En quelque sorte, quand Dieu a créé l'homme, il a créé tous les hommes le même jour. Aucun autre homme n'est créé plus tard. Parce que Dieu a vu tout ce qu'il avait fait et cela était très bon. Donc tous les hommes sont créés le même jour par Dieu. Au ciel. Est-ce que vous me comprenez? Le même jour. Mais comme chaque homme est créé pour un but, comme Dieu a un plan pour chaque homme, est-ce que vous me comprenez? Dieu va répartir la manifestation des hommes selon les saisons et les temps. Parce que chaque homme qui apparaît dans sa saison a une mission de Dieu pour sa génération. Oh my God! Alléluia! Est-ce que vous me comprenez? Chaque homme qui naît à sa saison a une mission de Dieu pour sa génération. Il a vu tout ce qu'il avait fait. Adam, Abraham, David, Moïse, Élie, Élisée, Jean-Baptiste, Pierre, toutes ces personnes, Anne, ont été créées le même jour. Aucun autre humain n'a été créé après. Il les a tous créés le même jour. Maintenant, suivez-moi bien. Mais il existe une grande différence entre la création et la naissance. Est-ce que ça va? Aucun être humain, aux yeux de Dieu, ne porte en lui-même n'a été créé par Dieu à une époque différente. Tous les hommes ont été créés le même jour devant Dieu. Et comme Dieu est omniscient, il a regardé la terre. Il a su que, numéro un, Ève allait être séduite par le serpent, mangeant le fruit et Adam avec elle. Il a su que le mal allait se répandre sur la terre et que les fils de Noé, plus tard après le déluge, allaient, n'est-ce pas, être ceux qui allaient remplir la terre. Il connaissait toutes ces choses, parce qu'il est omniscient. Et vous voyez, dans le calendrier de répartition des hommes sur la terre, Dieu a vu les continents. Parce que la Bible dit clairement dans Genèse que ce sont les trois fils de Noé sortis après le déluge qui ont peuplé toutes les nations de la terre. Alors, Dieu a réparti. Il a regardé l'Afrique, il a regardé l'Europe, il a regardé l'Amérique, il a regardé l'Océanie. Et il a su que dans chacun de ces continents, la gloire de Dieu devrait être manifestée dans des temps, des saisons et des époques. Est-ce que vous me comprenez? Et il a suscité pour chacun de ces continents des espèces appropriées. Et je vous rappelle qu'aucun homme aux yeux de Dieu n'est ni blanc ni noir. Le vrai problème, c'est que quand Dieu a formé, il a formé de la poussière du sol. Et donc, l'homme, la pigmentation de la peau n'est que le vase. Le corps n'est que le vase qui renferme l'homme qui a été créé au ciel. Écoutez-moi bien. Donc, le blanc, le noir, le métis, le jaune, le chinois sont tous créés de la même façon. Le blanc n'est pas supérieur au noir. Mais ils ont été répartis dans des environnements différents. Le noir en Afrique, le blanc en Europe, le chinois en Asie. Et plus encore, la couleur que Dieu a donnée à nos peaux correspond au climat dans lequel nous opérons. C'est pour ça que si un blanc vit en Afrique, de la même manière exposé que toi au soleil, il attrapera facilement le cancer de la peau. Sa peau n'est pas adaptée au soleil du tropique. Est-ce que vous me comprenez? Alors souvent je vois déjà avoir des complexes de la couleur qu'ils ont. C'est une fabuleuse couleur. Elle est excellente. Il n'y a pas de raison d'avoir un complexe au sujet de ta couleur. Est-ce que tu me comprends? Et la couleur n'est pas un sujet de limitation. D'accord? Maintenant suivons. Allons-y. Dis à ton voisin, il nous amène certainement quelque part ce matin. Amen. All right. OK. Maintenant, suivez-moi bien. Donc, l'homme est créé avant, au ciel, et il est manifesté sur la terre. Maintenant, vous voyez que quand Dieu a créé les autres choses, ce qui est fascinant, c'est que Dieu n'a utilisé que sa parole. Dieu dit que la lumière soit, pouf, la lumière est manifeste. Que la terre produise, pouf, la terre produit. Que les eaux produisent du poisson, les eaux se manifestent. Au moment de créer l'homme, il s'arrête. Il crée l'homme à son image, par la parole, mais il juge que pour créer l'homme, il faut au moins qu'il puisse avoir une relation personnelle avec cette créature qui est suprême. Et l'homme est la seule créature dans l'univers que Dieu a jugé utile de toucher lui-même et de façonner le corps de sa propre main, comme le potier, de former le corps lui-même de sa main. Il est descendu, il a creusé le sol. Il a sorti, il a commencé à chercher comment est-ce que le nez devait être l'œil. Il a façonné l'homme lui-même de sa propre main. C'est la seule créature que Dieu a touchée quand il a créé. Quand il a manifesté dans le monde physique. La seule. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu va, au lieu de créer l'homme simplement avec la parole, va aussi utiliser la terre et ses mains pour le faire? Numéro un, c'est pour que l'homme n'oublie pas que le lieu de sa mission, ce n'est pas le ciel, mais la terre. Est-ce que vous me comprenez? Et là, voilà le problème que j'ai avec certains chrétiens. Nous parlons tellement du ciel que nous oublions que notre rôle et notre mission est sur la terre. Tu viens du ciel, tu es un ambassadeur du ciel, ta patrie c'est le ciel, mais sur la terre tu as une mission. Et c'est la raison pour laquelle Dieu t'a donné un corps physique. Vous savez, tu vas jeûner comme tu veux. Tu vas prier comme tu veux. Mais en certain moment, ton corps va te rappeler que nous sommes sur la terre. Et c'est fait exprès. C'est fait exprès afin qu'il y ait un équilibre entre le spirituel et le naturel. Un équilibre. Nous sommes sur la terre pour accomplir un mandat purement terrestre. Et après quoi, nous allons repartir vers la patrie d'où nous sommes venus. Et de deux, en touchant l'homme de ses propres mains, puisque l'homme est manifesté la dernière créature de l'univers, Dieu va montrer à toutes les créatures qui existent quel est l'amour particulier qu'il a dans sa relation avec l'homme. Parce que quand il manifeste l'homme, le lion est déjà là.
L'ours est là, la hyène est là, les arbres sont là, le soleil, les as, le diable, les démons, tout le monde est là. Et il touche, il façonne, tout le monde regarde. Qu'est-ce que Dieu fait? Les mains de Dieu sur la terre, la main de Dieu touche l'homme et commence à le former. Et quand l'homme forme l'homme, le Dieu forme l'homme, il présente l'homme à l'univers comme le joyau de sa pensée, comme la résultante de son amour. Et il présente à l'univers pour dire, voici ce que j'aime. Voici votre chef, voici votre roi, voici votre leader. Voilà celui qui me représente sur la terre. Voilà celui qui parle à mon nom sur la terre. L'homme et la femme. Alléluia. Si tu pouvais savoir d'où tu viens, quelle est la valeur que tu as aux yeux de Dieu, certains matins, tu ne froisserais pas ton visage comme si le ciel t'avait abandonné. Dieu t'a touché de sa main parce qu'il voulait te montrer qu'à n'importe quel moment de sa vie, de ta vie sur terre, sa main ne sera jamais trop courte. Si elle t'a formé au départ, lui-même quand il a touché le sol, elle sera là encore pour t'assister dans toutes les épreuves que tu traverses. Sa main ne sera jamais courte parce qu'elle est descendue du ciel pour toucher la terre. Et cette main ne t'abandonnera jamais. Elle est au-dessus de toi ce matin pour accomplir dans ta vie des choses extraordinaires. Et elle t'accompagne sur ta vie terrestre. La main de Dieu qui est avec toi. Si après moi, la main de Dieu est sur ma vie. La main de Dieu me conduit. Et la main de Dieu me dirige. Et si Dieu est pour moi, personne ne saura être contre moi. Et vous voyez, maintenant, je reprends une question que j'ai posée dimanche passé. Quand Dieu crée l'homme, il crée l'homme à son image, selon sa ressemblance. Maintenant, je vous demande, est-ce que quand Dieu a créé l'homme, à son image, selon sa ressemblance, est-ce qu'il a dit à l'homme que l'homme était son image? Est-ce que dans la Bible, un seul moment, vous avez vu où Dieu a dit à l'homme, tu es mon image et ma ressemblance? Est-ce que Dieu l'a dit? Selon la Bible, nous n'avons pas vu où Dieu a dit à l'homme, tu es mon image. Bon, mais allons-y dans l'hypothèse numéro 1. Parce que quand le diable vient vers l'homme, il dit à l'homme, à la femme, disons l'homme être humain, la femme femelle, disant ceci, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu seras comme Dieu. La femme a été manifestée après l'homme. Après que l'homme ait existé, Dieu a manifesté l'homme en premier, et la femme est manifestée en second. Mais la femme et l'homme ont été créés le même jour. Dieu a révélé l'homme avant la femme et la femme après l'homme, pour que l'homme apprécie parfaitement la présence de la femme et que la femme valorise l'existence de l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Suivez-moi bien. Ensuite, quand il va le faire, quand Dieu va et le séparer, tu seras comme Dieu. La femme a reçu certainement l'ordre qui a été donné à l'homme. Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu seras comme Dieu qui a dit c'est Satan. Mais l'homme était comme qui? L'homme était comme qui? La femme était comme qui? Comme Dieu. En quelque sorte, le diable ne créait rien de nouveau. Il amenait à l'existence de l'homme dans le monde physique une réalité de l'homme dans le monde spirituel. Allons-y. Hypothèse numéro 1. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé esprit, pasteur, s'il te plaît. Il le crée là, esprit au ciel, il cause avec l'homme. Et l'homme est avec lui, il le connaît, puisqu'il dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te... Ça veut dire qu'ils avaient une relation. Il n'a pas dit, j'ai entendu parler de toi, mais je te connais. Donc, entre toi et moi, il y a eu une histoire. Quand un joueur veut entrer au stade, le coach lui parle avant et lui dit, regarde les stratégies, voilà, quand tu arrives, voilà ta mission, voilà comment ça va se faire. Donc, la mission est révélée dans le monde spirituel. Mais l'homme quitte le monde spirituel et va aller accomplir sa mission dans le monde physique, dans un corps. Soit, hypothèse numéro 1, Dieu a vraiment donné le message à l'homme, ici, puisque ce n'est pas Adam qui a écrit Genèse. Est-ce que vous me comprenez? Soit Dieu a donné le message à l'homme, et quand l'homme est entré en contact avec le corps, et il est devenu un être vivant, les réalités physiques ont tellement émerveillé l'homme qu'il a oublié qu'il était dans le monde spirituel. Est-ce que vous me comprenez? Ok? Et c'est l'éventualité la plus plausible. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'un enfant veut naître, venant de Dieu, dans la Bible, Dieu prend le soin de parler à sa mère avant. En quelque sorte, qu'il se rappelle dans le monde physique quel est le but pour lequel il est envoyé du ciel sur la terre. C'est la même chose qui s'est passée avec la mère de Jean-Baptiste. Dans Luc 1, verset 15, clairement, l'ange apparaît en disant, attention, fais attention à ce que tu bois et à ce que tu manges, car l'enfant que tu vas accoucher sera grand devant l'Éternel. N'est-ce pas? Donc si la Bible dit, fais attention à ce que tu manges et à ce que tu bois, ça veut dire que notre corps sur la terre peut corrompre notre révélation du mandat qu'on a dans le ciel. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde me comprend? Maintenant, allons-y plus loin. Suivez-moi bien. Maintenant, il y a autre chose que je vais vous faire comprendre. Il est donc très important de savoir que dès que vous menez votre vie en tenant compte des réalités naturelles, le diable aura toujours la victoire sur vous. Parce que votre force, vous ne la puisez pas dans le naturel. Mais de là où vous venez, de Dieu, du ciel, troisième ciel, c'est de là que vous puisez votre force. Le diable va toujours vous déconnecter du surnaturel pour vous amener à prendre le combat dans le naturel. Et aussi longtemps que vous combattez naturellement, vous êtes déjà dans la défaite. Parce que la victoire n'est pas naturelle. Elle est surnaturelle. Et même les gens qui travaillent, qui font des affaires, je travaille, je me lève à 6 heures, je finis à 23 heures. Au-delà de toutes ces choses, frères et sœurs, n'oubliez jamais que tant que ce n'est que naturel, il y a la défaite. Il faut toujours une connexion surnaturelle dans tout ce qu'on fait sur la terre pour la véritable réussite. Deuxième hypothèse, Dieu n'a pas parlé à l'homme. Deuxième hypothèse, la moins plausible. Dieu n'a rien dit à l'homme. Et quand le diable est arrivé, il semblait donner une révélation à l'homme. Que le fruit de l'arbre, là, si vous mangez, vous serez comme Dieu. Et vous savez, ce que l'homme aurait dû faire en ce moment précis, quand il a reçu l'information du diable, c'était de faire quoi? C'était d'aller à Dieu, lui poser la question. Mais voici ce que le diable nous dit. Mais papa, dis-nous un peu, qu'en est-il? Dieu, en ce moment, aurait certainement répondu à l'homme, puisque Dieu causait avec l'homme, c'était des amis. Il se racontait de l'histoire. Et vous savez, faites attention. Il ne faut pas simplement passer le temps à causer avec Dieu ou oublier les affaires essentielles de votre existence. Beaucoup de chrétiens prient, mais ce qui concerne la vitalité de leur vie, ils oublient d'en parler avec Dieu. Il faut apprendre à régler les problèmes de vie avec Dieu dans le ciel. Parlez avec lui. Tu as un problème avec ton mari, parle avec lui. Avant d'aller voir un psychologue, un psychanalyste, un médecin, parle avec Dieu du problème qui te concerne. C'est d'abord la chose la plus importante. Demande à Dieu quel est son point de vue. D'abord, qu'est-ce qu'il pense? Quel est son point de vue? Quel est son regard sur la situation? Il est important de le savoir en posant la question. Parce que la Bible dit, on donne à celui qui demande. On ouvre à celui qui frappe. Donc, si tu veux recevoir, demande. Tu as des questions, pose-les. Ne prenez pas Dieu comme un être qui n'a pas envie que vous lui posiez certaines questions. Dieu a envie que vous lui posiez des questions. Et Dieu est concerné par tout ce que vous traversez. Il veut être impliqué dans tout ce qui vous concerne. Posez-lui des questions, simplement. Et vous aurez des réponses. Il prend plaisir à répondre à nos questions. Qu'est-ce qui te préoccupe? Quelles sont tes batailles? Quelles sont tes luttes? C'est en Dieu la réponse. Vous n'allez jamais voir le poisson aller chercher la solution à son problème en forêt. Parce que son problème ne peut pas être résolu en dehors du milieu dans lequel il vient. Son problème est résolu par le milieu qu'il a suscité. C'était l'eau. Et la plante n'ira pas chercher sa solution dans les airs. Parce que c'est la terre qui a créé la plante. Et l'homme n'ira pas chercher sa solution ailleurs qu'en Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. Donc, c'est en Dieu qu'on trouve la solution à nos problèmes. En posant des questions. Ne soyez pas des chrétiens du dimanche. Alléluia, gloire à Dieu. Il est grand, il est merveilleux. Je vois sa gloire, il est avec moi. Mais c'est fantastique toutes les choses. Les questions essentielles, pose-les. Ce qui habite ton cœur, les préoccupations de ton âme, cause-les. Et je vais te dire ceci. Suis-moi bien. Si tu veux faire la différence dans ta génération, fais attention. N'écoute pas ce que les autres personnes te disent. Je vais te dire une chose. Écoute ce que Dieu t'a dit à ton sujet. Parce que chaque fois que tu poses des questions aux autres, ils te répondent à partir de leur peur, de leur insécurité, de leur mauvaise expérience. Mais Dieu ne fait accepter de personne. Dieu veut que tu entres dans sa présence et que tu lui poses la question à lui-même et il te dira. Est-ce que tu me comprends? Il te dira. Oh non, pourquoi tu penses à des choses pareilles? Oh, c'est trop grand. Personne n'a jamais fait ça avant toi. C'est pas possible. Ce n'est pas incroyable qu'une chose pareille puisse être faite. Mais attends. Si quelqu'un devait faire avant toi, il n'y a pas de raison que Dieu t'ait amené. Suivez-moi bien, il y a un but et un plan. Et le plan diffère. L'empreinte digitale que j'ai n'est pas la même que tu as, parce que chacun doit laisser une empreinte différente. Hey, écoute-moi bien. Je ne vais pas prendre ta main pour laisser l'empreinte sur ma carte d'identité ou sur mon passeport. Jamais. Non. Je vais utiliser mon empreinte pour mon identité. La même chose spirituellement. Il faut utiliser ton empreinte. Pas l'empreinte de ton voisin, pas l'empreinte de ton pasteur. Non. Mais ton empreinte à toi. Ce que Dieu t'a dit, ce qui te concerne, ce qui est avec toi, c'est ça. Et la raison pour laquelle la vie sur terre sera épanouie, sera heureuse, c'est parce que toi aussi tu as déposé ton empreinte. Si ton empreinte manque, la note de la chanson n'est pas parfaite. Pour que la mélodie soit parfaite, le bassiste sort sa tombe, le trompettiste, la batterie, le clavier, et toi tu viens juste avec peut-être la trompette ou avec le saxo. Chacun amène sa note et c'est ça dans la mélodie, c'est là qui relâche la gloire de Dieu. Parce que toi, tu as joué ta note. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Tu as joué ta note. Parce que tu as dégagé ce qu'il y a en toi. Il y a quelque chose en toi qui est particulier et que l'univers devra découvrir. Et il y a quelque chose qui est en toi. Et tu sais, quand c'est en toi et que tu écoutes la chanson que les gens sont en train de jouer, il y a quelque chose qui te dit, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque à cette chanson. Tout le monde dit non, c'est comme ça qu'on joue ça. Tu dis non, il y a quelque chose qui manque. Parce que Dieu t'a donné une autre mélodie, une autre façon de jouer à la guitare. Il t'a donné d'autres notes, d'autres inspirations. Parce que le beat va changer, les choses doivent être, oh my God. Est-ce que vous me comprenez? Les choses doivent être différentes. Avant c'était le zouglou. Maintenant c'est le coupé décalé. Après ce sera un autre rythme. Les rythmes évoluent. Ce n'est pas parce qu'ils ont joué comme ça en 1960. Concernant la marche avec Dieu, qu'en l'an 2000, on va jouer le même beat. Dieu a fait quelque chose de différent. Parce que je n'étais pas né en 1960. Je suis né après pour apporter à ma génération un autre beat. Alléluia. Je suis né pour apporter à ma génération un autre son, une autre mélodie. Avant que l'artiste ne crée sa propre mélodie, il apprend à jouer la mélodie qui était là avant. Il apprend à jouer ce que les autres ont joué. Jusqu'à ce qu'au moment dans ses répétitions, il dit ça ne colle pas avec ce que je ressens. Il y a quelque chose d'autre et on appelle ça l'inspiration. Alléluia. Et vous savez, et souvent quand il le découvre, il n'y a aucun producteur pour le produire. Parce qu'on dit ça là, les gens ne vont pas aimer. Mais ils croient en sa mélodie. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Il croit en sa mélodie. Il croit en ce qu'il a. Il croit en cette inspiration. Et plus tard, cette mélodie s'impose comme étant celle de sa génération. Comme étant celle de sa génération. Comme étant celle de son heure. J'ai dit la mélodie qui est en toi, les dons que Dieu a déposés en toi. Le temps est arrivé, le monde verra ce que Dieu t'a donné. Tu relâches le potentiel au nom puissant de Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est pour ça que si tu n'es pas prêt à la rupture, tu n'auras jamais ce que Dieu a pour toi. En certains moments, il faut t'arrêter pour dire, ça ne me convient plus. Ah ouais, trop, c'est trop. Il faut que j'arrête maintenant. À un certain moment, il faut s'arrêter. J'ai longtemps appris la mélodie des autres. Mais il y a quelque chose d'autre que je reçois. Et je veux aller dans ce sens. Je veux aller dans ce sens. Je veux aller dans cette direction. Je veux faire cette chose-là. C'est ça que je veux faire. Non, c'est les affaires de Dieu, vous savez. Quand on vient à l'église, l'église c'est un endroit des gens qui sont pauvres, des gens qui sont misérables, des gens qui n'ont rien, qui viennent chercher une consolation. Oh Seigneur, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Oh Seigneur, aie pitié de mon âme. Ça c'était l'ancienne mélodie. Ah, c'était l'ancienne mélodie. Oh my God, c'est l'ancienne mélodie. Ça c'était valable après les indépendances. Quand ils sont venus avec l'église en disant, venez être chrétiens et donnez-nous toutes les richesses du monde. Ça, c'est l'ancienne mélodie. Mais une nouvelle mélodie est en train de se jouer maintenant. Ce n'est plus la même. Dieu a changé les donnes. Alléluia. Dieu a bouleversé les choses. Une nouvelle mélodie se joue actuellement. Est-ce que vous me comprenez? Mais vous voyez, il y a des gens qui sont tellement attachés aux anciennes mélodies que même quand ça change, ils restent dans l'ancien. Il y a des gens qui ont peur du changement. Ils n'aiment pas que les choses bougent. Mais tu as une empreinte pour ton temps et ta saison. Est-ce que tu me comprends? Pour ton temps et ta saison. Dieu n'a pas fait une erreur quand Moïse était né avant moi, classé au départ sur la terre avant moi. J'étais assis avec Moïse dans le ciel. Et on causait des affaires de la terre. Et on regardait ce qui se passait. Et on voyait ce qu'Adam avait fait. Quand Moïse est parti, nous l'avons tous salué pour dire, courage, vas-y. On arrive après toi. Moïse est descendu avant, on l'attendait au ciel. On savait qu'on allait venir. Moïse a terminé. Quand Moïse a terminé et que David est venu, David, on s'est salué au ciel. On se connaît tous. On vient tous du même père, de la même patrie. On est frères là-haut. On se connaît. Quand David est parti, on lui a dit, vas-y, c'est ton heure. Mais au même moment, il y a le côté de ceux qui ont déjà joué leur match. Il y a le côté de ceux qui attendent pour entrer. Et généralement, quand le match est intense, comme à la Coupe d'Afrique des Nations, quand on réserve quelqu'un pour la 90e minute, ou pour la... Oh, 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 my God! Come on! You may never know! Yes, Lord! Come on! Oh, yes! Come on! Come on! Écoutez-moi bien. Parce que c'est celui-là qui entre en dernier, qui apporte à l'équipe le souffle qui manquait. C'est le goliador, c'est le joker de l'entraîneur. Quand Jésus a vu que le match était serré, Jésus lui-même s'est levé. Et il est venu me voir dans mon coin. Et il dit, révérend, ton heure est venue. Je me lève. Et dit, nous sommes à la fin des temps. Tu es l'un des derniers jokers. Tu as vu la stratégie de Satan? Il a infiltré l'église. Il a amené la médiocrité, la pauvreté, le péché. Dieu n'est plus respecté, honoré. Ma mission pour toi maintenant, c'est que tu entres. Et il y a un but qui doit être marqué, et tu as le secret. Regarde la tactique, et oh my God, come on. Yes, Lord. Oh yes, Lord. Alléluia. 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 Tu n'es pas au hasard. J'ai dit, tu n'es pas au hasard. Tu n'es pas au hasard. Tu es le joueur qui entre pour le but de la 90e minute. Tu entres au terrain pour le but de la dernière minute. Tu n'es pas au hasard. Tu n'es pas un hasard. Dieu le fera. Dieu le fera. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Le dimanche dernier, pendant qu'on était en train de parler sur la destinée, le diable avait arrêté la mort d'un enfant d'une de mes filles dans la chorale. Et une autre sœur a vu, a fait le songe, elle est venue me dire. Et je ne savais pas que le même dimanche, la mère a été saisie à l'église. Elle a commencé à prier sur la tête de son enfant dans le temple. Le diable avait arrêté le décret de mort. Mais c'est un enfant qui a une promesse et qui ne peut pas mourir avant son heure. Donc la mère devra jouer le rôle prophétique sur la vie de l'enfant. Elle a posé les mains, elle a commencé à prier. Et le lendemain, un accident s'est produit devant sa maison. Un enfant sortait et une voiture à marche arrière a cogné l'enfant qui habite dans le même immeuble qu'elle. Et l'enfant est mort. Mais son enfant n'est pas mort. Pourquoi? Parce que à certains moments, quand le diable s'attaque à toi, la Bible dit, il va donner aux païens, à ceux qui ne craignent pas Dieu, qui sont dans d'autres alliances, qui adorent d'autres dieux, de mourir à la place du juste. L'enfant est en vie et l'enfant va vivre pour accomplir sur la terre ce à quoi Dieu l'a appelé. Je parle de destinée. Dieu en plan et Dieu en but pour chaque être qu'il suscite. Certains d'entre nous, en Afrique, le problème que nous avons, c'est que quand nous naissons, nos mères n'ont pas joué sur nos vies le rôle qu'elles devraient jouer. Ce sont les servantes qui nous ont baladés à gauche, à droite. Ce sont les filles des maisons qui nous ont fait dormir. On n'a pas entendu parler d'un rôle qu'on a à jouer. Celui qui a entendu le message n'est pas la servante, mais c'est vraiment la mère. Et la mère a laissé le fils entre la main d'une inconnue. Et l'enfant ne peut pas. Quand il s'agit d'accomplir sa destinée, la bataille est plus lourde. D'autres même, nos mères étaient alcooliques, dans les bars, fumant, prostituées, et on a été conçus. Mais ce n'est pas grave. Vous savez, Dieu est intelligent, extrêmement intelligent. Quel que soit l'environnement dans lequel on est, il utilise et exploite cet environnement pour sa gloire. Parce qu'il dit, je prends les choses faibles pour confondre les forts. Dans l'Ancien Testament, il y avait la lignée de ce que Dieu bénit. La lignée abrahamique, ou alors on pourra parler de la lignée lévitique ou les descendants d'Aaron. Mais dans la nouvelle alliance, quiconque se positionne avec Jésus, quel que soit son background, quel que soit ce que sa mère a été, quel que soit ce que son père a fait, quel que soit cet enfant, une fois connecté, entre dans la présence de Dieu et peut accomplir pour le ciel ce que le ciel a pour lui. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? C'est une question de destinée. J'ai dit, c'est une question de... Et quand la Bible dit, ne touche pas à mon loin. Ne fais pas du mal à mes prophètes. Ça veut dire, ne touche pas à quelqu'un que j'ai suscité d'avance. Ne le touche pas. Vous savez, souvent pour faire sauver une vie prédestinée, plusieurs vies meurent à la place de cette vie. Regardez le cas de Jésus. Regardez le cas de Moïse. Des gens sont morts pour ton étoile que le diable a vu briller. Est-ce que vous me comprenez? Si vous pouvez savoir jusqu'où Dieu tient à vous, jusqu'où Dieu tient à toi dans son plan, j'ai dit ça, c'est impossible que tes prières restent les mêmes. Impossible. Dieu tient à toi et il veut faire avec toi ce qu'il n'a jamais fait avec quelqu'un d'autre. Il veut le faire. Mais pour le faire, il a besoin de toi. Il a besoin de ta foi. Il a besoin de ta connexion. Il a besoin de ta confiance. Il a besoin que tu t'abandonnes entre sa main pour qu'il puisse faire avec toi le plan qu'il a arrêté d'avance. Maintenant, je continue en disant ceci. C'est vrai, on parle de destinée prophétique. Dieu a un plan pour moi. Dieu a un but pour ma vie. Revenons au naturel. Plusieurs sont appelés. Nous sommes enfants de Dieu, mais beaucoup d'entre nous, les choses ne vont pas comme ça devrait être. Mais maintenant, ça va davantage mieux pour beaucoup aussi. Dieu est présent. Il agit, il demande sa force. Mais je vais vous dire une chose, frère. Dieu ne prend pas plaisir à te bénir. Parce que tu es Adjoukou, tu es Bété, tu es Baolo, tu es Ivoirien, tu es Camerounais, tu es Congolais ou tu es Américain. Dieu ne prend pas plaisir à te bénir à cause de la qualité de ton regard. Non. D'abord, c'est lui qui te l'a donné, donc il n'est pas impressionné par ça. Ce n'est pas le titre que tu portes à l'église en disant « Je suis bishop, je suis as-bishop, je suis révérend, je suis apôtre. » Dieu n'est pas influencé par ça. C'est nous les hommes, on dit « bishop, et il est bishop. » Non, attention, ça n'a rien à voir. Dieu regarde un peu plus au plan qu'il a pour nous. Et qu'est-ce qu'il nous a demandé de faire? Dieu n'est pas impressionné par le titre que tu portes, mais par le rôle que tu joues dans son armée. Quel est le rôle? Quel est le rôle que tu joues? C'est ce qui impressionne Dieu. Et en plus, laissez-moi vous dire une chose. Souvent, il y a des gens, vous voyez autour de vous, vous avez pitié d'eux. Oh, ça ne marche pas. Oh, si, il fait ci, ça tombe. Souvent, c'est simplement parce que la personne est en train de lutter contre une destinée. La personne veut lutter contre Dieu. La personne veut s'opposer au plan de Dieu sur sa vie. Et souvent, Dieu juge utile de dérober tout autour de toi ce qui fait ton support dans le naturel, pour que tu n'aies qu'un seul regard vers lui. Donc, il y a des gens que Dieu lui-même résiste et que beaucoup de personnes d'entre nous, nous prenons le soin d'aider, sans savoir qu'en aidant ces personnes, on lutte contre le plan de Dieu. Quand Jonas a fui la mission de Ninive, les hommes du bateau, bien qu'ils aimaient sa tête, ont aimé Dieu plus que la tête de Jonas et ils l'ont jeté dans l'eau. Parce que cet homme rebelle, le plan de Dieu n'a rien à voir dans le bateau. Il attire le malheur. Quand Jonas est allé dans l'eau, la mer a envoyé, la baleine est arrivée. Quand la baleine te prend, tu n'as pas 10 minutes à vivre dans le ventre. Mais la baleine était en conspiration réelle avec Dieu le Créateur. Et la baleine était en mission commandée vers le bateau pour récupérer le rebelle Jonas. Parce que Dieu avait lâché son réma. Et le réma était sorti. Et Jonas ne pouvait pas combattre le réma. Toute la création, oh my God, toute la création s'est alignée sur le réma de Dieu vers Jonas. Même la baleine, même la mer, tout autour, les hommes, on l'a vomi à Ninive. Souvent, quand Dieu t'aime, il ne te fait pas échapper le feu. Tu passes par là. Et les eaux tumultueuses, tu les connais. Ce n'est pas pour rien que même Jésus, dans les eaux, a connu un peu l'agitation. Même les disciples, dans la barque, la mer a été agitée. En certains moments, il y a des agitations. Ce n'est pas parce que c'est agité que le maître n'est pas là. Au contraire, c'est sa présence qui agite les choses. Et aucune prière ne peut les arrêter. Sauf un ordre qui vient d'un cœur qui a décidé d'obéir. Sauf un ordre, une parole qui vient d'un homme qui dit « Je marche avec le plan de Dieu » est capable d'amener les choses en ordre. On parle de destinée. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de clair. Si Dieu a un plan pour toi, Dieu a un but pour toi, il t'a créé, il dit j'ai un but pour toi. Maintenant dis-moi, comment est-ce que tu fais pour savoir le but que Dieu a pour toi? Qui peut me répondre? Comment tu fais pour le savoir? Si tu passes le temps à écouter le Mapuka, hein, tu passes le temps à dans des endroits qui, où on n'écoute pas quelque chose qui a à voir avec ta destinée. Comment est-ce que tu entendras Dieu te parler? Il faut rester dans un environnement où Dieu parle. Je n'ai pas dit un environnement où on parle des hommes, où on critique les autres. Non, telle église a fait ça. C'est le par ce à quoi on a été appelé. Dieu est juge de ces hommes. Attention, mais prêchons la parole du royaume. Ouais, parce que quand la parole est relâchée, ça crée une atmosphère prophétique, un environnement probant pour que Dieu parle. L'atmosphère est déclenchée. Écoutez, vous savez, avant j'allais en boîte de nuit quand j'étais de l'autre côté, avant que Dieu ne m'arrache. Suivez-moi bien. Quand vous arrivez en boîte, il y a une atmosphère. Il y a la, tout est sombre, il y a des jeux de lumière. L'atmosphère du vice et du mal est préparée pour que les anges de l'enfer soient à l'œuvre. Vous comprenez? Et c'est pour ça que vous voyez, on peut s'habiller n'importe comment, d'une certaine manière, mais on regarde à sa montre parce que si 7 heures arrive, l'habit n'est plus convenable pour le jour. Parce que c'est un habit de la nuit, qu'on ne porte que la nuit dans les endroits de nuit. Est-ce que vous me comprenez? Quand le jour arrive, on se cache parce que ça ne correspond pas à ce que tout le monde peut voir. Est-ce que vous me comprenez? Donc, l'atmosphère est favorable à certaines choses. Et quand Dieu veut se manifester quelque part, il faut une atmosphère qui soit favorable à sa manifestation. Si l'atmosphère n'est pas favorable, tout sera brouillé. Vous avez souvent entendu, on t'appelle, et puis le réseau est brouillé. Alors, Jean-Baptiste, est-ce que je peux t'avoir? Il n'y a pas de message. Tout est brouillé. Pourquoi? Parce que le réseau est encombré. Et souvent Dieu veut te parler, mais ton réseau est encombré. Et il y a des choses qui brouillent. Et au lieu d'entendre ce que Dieu te dit, tu entends ce que le diable te dit. Et tu prends ce que le diable te dit comme étant la voix de ton Dieu. Quand la cassette que tu écoutes sur ta vie est une bande falsifiée, ta vie ne peut jamais rien devenir. Rien du tout. Alors qu'il y a un message, et il y a une bande, il y a une cassette qui contient le message que Dieu t'a donné au ciel. Et c'est elle que Dieu veut que tu écoutes sur la terre. Et c'est celle que Jérémie a entendue, la parole que Dieu lui a donnée. J'ai constaté que dans la Bible, La majorité des gens qui ont fait des exploits avec Dieu n'ont pas utilisé la Bible, mais ils ont utilisé la parole de Dieu. Ce n'est pas une hérésie. Ils n'ont pas utilisé la Bible. Adam n'avait pas de Bible. Noé n'avait pas de Bible. David même n'avait pas de Bible en tant que tel. Il avait une partie. On dit Bible, c'est Ancien et Nouveau Testament. Et ils n'avaient pas de Bible. Mais ils avaient la parole de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Dans la franc-maçonnerie, il y a la Bible. La Rose-Croix, il y a la Bible. Témoin de Jéhovah, il y a la Bible. Mormon, il y a la Bible. Évangélique, la Bible. Méthodiste, la Bible. Pentecôtiste, la Bible. Luthérien, la Bible. Mais ce n'est pas la Bible qui fait la différence. Si la Bible faisait la différence, tous les francs-maçons allaient se convertir. Mais ils ont la Bible, mais ils n'ont pas la parole. Parce que, écoutez-moi très bien, parce que la parole de Dieu devient parole de Dieu pour toi, au moment où cette parole t'est adressée à toi, où Dieu te parle, il faut faire une différence entre le logos et le rhéma. Le logos est l'aéroport sur lequel décolle le rhéma. C'est la piste d'atterrissage aussi du rhéma. C'est l'aéroport. Les avions décollent là-dessus. Ton rhéma prend sa base, pof, et monte. Pour vérifier que ça vient de Dieu, c'est par le logos que c'est confirmé. Mais le rhéma, c'est ce que Dieu t'a dit. Comment est-ce que tu fais pour savoir la destinée que Dieu a pour toi? C'est le rhéma que Dieu te donne. Le rhéma, c'est la parole que Dieu t'adresse à toi. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Dieu dit à Élie, quitte le torrent, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Dieu parle, n'est-ce pas, à qui encore dans la Bible? À Noé, divinement averti, construisit l'arche. Les grands hommes de Dieu qui ont fait des exploits avec Dieu ont tous eu le rhéma. Dieu leur a dit quelque chose. Dieu a parlé à chacun d'entre eux. Et c'est ça la clé. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Quel est le message que tu entends dans ton cœur? Quelle est la voix que tu entends? Et souvent Dieu t'a dit des choses que tu n'as pas vues avant. Et c'est ce que la Bible dit, ce que les yeux n'ont point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme. Dieu le révèle par son esprit, car l'esprit de l'homme sort de tout jusqu'aux profondeurs de Dieu. Donc, nous allons puiser en Dieu le rhéma de notre destinée. Aucun homme n'a habilité à te dire, Dieu m'a dit, tu es prophète. Dieu m'a dit, épouse cette femme. Dieu m'a dit, divorce cette femme. Dieu m'a dit, donne-moi ton argent. Dieu m'a dit, donne-moi ta maison. C'est la manipulation. Le même peuple qui a mangé les pains du miracle, c'est le même peuple qui a dit, crucifie-le. Donc le peuple n'est pas celui qui valide la voix de Dieu. L'opposition va venir. Mais pourquoi elle viendra? Elle viendra pour tester la confiance que tu as au rhéma que tu as entendu. Est-ce que tu as vraiment confiance? Est-ce que tu crois que Dieu t'a parlé? L'opposition va faire asseoir dans ton cœur la conviction par la parole que tu as reçue. Oh non! Tu ne peux pas réussir! Personne ne l'a fait avant toi! Si une agence missionnaire ne te soutient pas, tu ne réussiras pas! Quand je venais en mission, c'est ce que j'ai entendu. Et même jusqu'aux personnes qui étaient supposées me dire, vas-y, Dieu avec toi. Mais il y a des oppositions qui sont divines, qui viennent de Dieu, pour tester la confiance que tu as en ta parole. Mais je sais une chose, je n'ai jamais permis à quelqu'un d'écrire avec sa plume l'histoire de ma vie. Jamais. Parce que je sais que l'histoire de ma vie a déjà été écrite par mon Créateur. Et mon rôle, c'est de marcher selon ce qui a été écrit me concernant. Et vous savez, chaque destinée est rattachée à une provision. Les gens me demandent, mais comment tu fais? Mais comment tu fais que Dieu te bénisse? J'ai dit, mais vous n'avez encore rien vu, ce que Dieu va faire est trop grand. C'est que vous voyez là, c'est rien. Oh non, c'est rien ça. Ce que je vois à l'intérieur ne permettent même pas que je m'arrête sur les c'est bon des hommes. Parce que je sais que ça ne ressemble à rien par rapport à cela où je vais. C'est plus grand. Je ne m'arrête pas là. Écoutez, j'ai dit en 1999, en 2000, quand j'ai touché les pieds de la mission, arrivé à l'endroit où Dieu m'a envoyé, là, les Américains ne vont pas soutenir mon ministère. Les Européens ne le feront pas. On m'a proposé de rester en Amérique. Vois-tu, argent, j'ai dit non. Dieu m'a dit Côte d'Ivoire, Afrique. Jusqu'à ce qu'ils me disent de quitter, je resterai où Dieu m'a demandé de rester. Parce que j'ai appris une chose. La provision de Dieu ne se trouve pas là où l'argent est abondant, mais se trouve là où Dieu t'a envoyé. Si, écoute-moi bien, quel que soit l'endroit où tu iras, si ce n'est pas l'endroit où Dieu t'a envoyé, il n'y aura pas de provision pour toi. Elle se trouve là où Dieu t'a envoyé. Et chaque mandat que Dieu te donne est accompagné d'une provision. Vous avez déjà vu un ministre, ou alors disons un ambassadeur de la Côte d'Ivoire à l'extérieur qui s'en va, ou bien non, ou des États-Unis qui s'en va en mission, et puis on dit il paye lui-même son salaire, il paye. Non, c'est le gouvernement qui prend en charge tout ce qui le concerne. Même jusqu'aux enfants scolarisés, parce qu'ils représentent un État. Si tu pouvais savoir quelle accréditation a été signée à mon égard quand je quittais le ciel, quelles sont les recommandations qui ont été faites à l'univers me concernant. Quand tu marches dans le plan de Dieu, la lune, le soleil, le ciel, la terre, la pluie, la graisse du sol, les richesses courent à ta rencontre. Parce que tu as reçu le mandat pour qu'ils se soumettent à toi. On n'est pas appelé à être des mendiants, à aller commander, s'il vous plaît, pardon, Dieu m'a dit, aidez-moi, soutenez-moi. Si Dieu t'a dit le meilleur endroit pour aller crier, pardon, soutiens-moi, c'est au ciel. Il faut garder une certaine dignité. Il faut garder une certaine intégrité. Est-ce que vous comprenez? Les hommes de Dieu, les enfants de Dieu ne sont pas des mendiants. Nous devons nous lever dans une autre façon de le voir. Nous devons laisser entendre la nouvelle mélodie. L'église n'est pas mendiante. L'église est puissante, elle est riche, elle est glorieuse, sans tache ni ride. C'est la nouvelle mélodie. Écoutez-moi. Et par nos comportements, nous avons mené les gens à mépriser le Dieu que nous servons. Il faut une certaine dignité. Tu t'assois à côté d'un blanc ou à côté de quelqu'un qui est clair. Il n'y a pas de complexe à cause de sa peau. N'oubliez pas qu'au ciel, quand vous avez causé sur vos missions, il n'y avait pas de couleur de peau. Les soldats de la MONU qui sont envoyés, ou alors peut-être au Congo, peuvent ne pas avoir le même uniforme que ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Mais le plus important, c'est qu'ils sont tous soldats de l'ONU. Donc ce n'est pas une question de tenue qu'il porte. Non, ton corps n'est que ta tenue de combat, puisque ce n'est pas le réel toi-même. Pourquoi tu es intimidé par la tenue que l'autre porte? Le plus important, c'est celui qui est dedans et celui qui l'envoie. C'est ça qui compte. Donc, pour clôturer, je vais vous dire ceci. Chaque destinée est révélée par une parole prophétique. Dieu te parle clairement. Donc, Dieu te révèle ton mandat, ce que tu as fait par une parole qu'il te donne. Et comment est-ce que la provision t'est donnée? Parce que le vrai problème, c'est que beaucoup disent, je veux faire ce que Dieu m'a demandé, mais je n'ai pas les moyens. Numéro un, n'oublie jamais. Dieu ne va jamais te demander ce dont tu ne t'as pas donné les moyens pour faire. Chaque fois que tu as entendu Dieu, ça veut dire que les moyens sont déjà là. Ils existent déjà. Mais le problème, c'est comment les avoir? Comment rentrer en possession des moyens que Dieu m'a donnés? C'est ça le vrai problème. Il dit à l'homme, voici, je te donne du fruit d'arbre portant de la sémence. Ce sera ta... En quelque sorte, Dieu n'a jamais donné à l'homme l'abondance physiquement. Il a donné à l'homme la capacité d'avoir l'abondance physique. En fait, il lui a donné un peu, mais le peu renfermait l'abondant que l'homme voulait avoir. Parce que la nourriture de l'homme, par Dieu, s'est trouvée dans la sémence. Et la nourriture de l'animal s'est trouvée dans l'herbe des champs qui n'a pas de sémence. En quelque sorte, la provision de l'homme se trouve dans son habileté à faire fructifier la sémence que Dieu a déposée en lui. Souvent, tu cherches ce que tu as déjà. Dieu te l'a déjà donné. David a voulu prendre les habits de Saül. Il n'a pas pu marcher avec et il a utilisé sa fronde. Parce que ce que tu as, c'est avec ça que Dieu va te faire terrasser ton ennemi. Le peu que tu as, ce que tu méprises, c'est là où se trouve la valeur de Dieu. Dieu va t'élever. Il va te bénir et te combler de toutes sortes de grâces. Alléluia. Amen. Come on, Lord. Yes, Lord.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.